Bonjour à tous, François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis. Nous sommes le 4 janvier 2018 et voici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse quotidienne. On peut se demander, comme on le fait tous les jours d'ailleurs, si le 4 janvier fut une date importante au travers de l'histoire. Et pour répondre à cette épineuse question, Mathieu Tessier, qui assure la mise en onde et les choix, les choix musicaux.
Déjà médiévaux.
Oui. Oui, mais j'allais dire médicaux de cette épineuse. Mathieu tousse beaucoup. Alors.
Oui, écoutez, c'est ma... c'est un passe-temps. Un passe-temps de mon début d'année, à chaque année. Je tousse. Voilà.
Donc, le 4 janvier 2018, Mathieu Tessier, tous.
Voilà, ça, c'est une chose qu'on mettra l'année prochaine, dans les éphémérides. Mais pour commencer, le 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille.
Ah! Donc,
oui, voilà. Et pour ce qui est des événements historiques, remontons en 1493. Christophe Colomb met les voiles avec la Nina pour retourner en Espagne. Nous avons en 1863, un brevet d'invention est accordé à James Plimpton de New York pour les patins à roulettes. En 1932, en Inde, le régime anglais déclare illégal son parti et arrête Mohandas Gandhi, le Mahatma. En 1936, premier hit parade musical dans le magazine américain Billboard. On a en 1958 le Sputnik 1. Pardon. Le premier satellite artificiel de l'histoire rentre dans l'atmosphère et se désintègre. En 1971, Francis Simard, les frères Paul et Jacques Rose sont tenus responsables de la mort du ministre québécois Pierre Laporte. En 1973, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, plusieurs tableaux sont volés, dont un Rembrandt évalué à 1 million de dollars. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque le vol du siècle. Nous avons en 1980, l'administration Carter restreint les ventes de céréales de l'URSS suite à l'invasion de l'Afghanistan. En 1987, en finale de hockey junior en Tchécoslovaquie, le Canada et l'Union soviétique sont disqualifiés pour cause de bagarre générale. En 1990, le député Gérald Godin et la chanteuse Pauline Julien se marient à Montréal après 27 ans de vie commune. En 2004, toujours un 4 janvier, la première sonde de la mission américaine Mars Exploration Rover se pose sur Mars. Et en 2012, dans la région de Thetford Mines, le producteur d'amiante Lab Chrysotil déclare faillite.
Et dans la catégorie « Ils sont nés ou sont décédés un 4 janvier »
Nous avons en 1643 Isaac Newton, philosophe et scientifique britannique, et qui est né un 4 janvier 1643. Il est décédé un 31 mars 1727. Jacob Grimm, un écrivain allemand, est né un 4 janvier en 1785. En 1809, Louis Braille, donc c'est pourquoi la journée d'aujourd'hui est la journée mondiale du Braille, l'inventeur du système d'écriture pour les aveugles. Nous avons le poète et scénariste cher à mon cœur, Jacques Prévert, est né un 4 janvier en 1900. James Bond, non pas le personnage, mais l'ornithologue américain qui a inspiré de son nom l'auteur pour l'agent secret. 1927, Paul Desmarais, homme d'affaires canadien, est né un 4 janvier. Jean-Louis Miette est né aussi en 1935, un 4 janvier. Thomas Fersen en 1963. Et Marina Orsini est née en 1967, qui est actrice québécoise. Dois-je le rappeler? Et pour ce qui est des décès, en 1960, l'écrivain Albert Camus, qui est décédé dans un accident de voiture, et T.C. Eliot en 1965, l'écrivain britannique, le prix Nobel de littérature en 1943, nous a quittés. En 1965, un 4 janvier. Voilà.
Merci beaucoup, Mathieu. En actualité aujourd'hui, pas de séisme majeur, pas de très très grande nouvelle. Une petite journée pour l'information? Non, puisque ça roule toujours l'information. Et si on ne peut pas s'intéresser à grand-chose, on s'intéresse généralement à ce que dit la météo ou Donald, selon la première ou la dernière échéance, enfin. Alors, on va commencer avec la météo dans ce cas-ci, plus particulièrement un texte de Suzanne Colperon et de Fanny Lévesque, publié dans la presse. texte dont le titre nous donne froid dans le dos. Météo à venir, ce ne sera pas beau. Vague de froid polaire, chute de neige, sortie de route, non, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Le Québec se prépare à affronter jeudi soir la première tempête de 2018. Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada, est catégorique. Restez chez vous. La tempête hivernale en provenance de la côte est américaine va frapper fort jeudi soir, particulièrement dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Vent exceptionnellement fort, neige aveuglante, formation de congères et avertissement de blizzards sont au programme. De quoi rendre la conduite périlleuse, voire catastrophique. C'est une situation très problématique, assure M. Bégin. Toutes les régions vont recevoir de la neige, certaines plus que d'autres. À Montréal, on attend de 5 à 10 cm. Dans les cantons de l'Est et à Québec, ce sera le double, de 10 à 20. Mais c'est dans l'Est de la province que les précipitations seront le plus abondantes, de 20 à 40 cm. Baptisée Grayson par les Américains, la tempête a frappé jeudi le sud-est des États-Unis. Plusieurs compagnies aériennes ont déjà annulé de nombreux vols et prévoient en annuler des centaines d'autres, alors que le gros de la dépression doit s'abattre sur le nord-est du pays avant d'atteindre le Québec et les Maritimes. Plus de la moitié des vols prévus jeudi à l'aéroport Logan de Boston ont été annulés, de même que près de la moitié des vols à l'aéroport LaGuardia de New York, selon l'Associated Press. Deux autres aéroports de la région de New York, JFK et Newark, sont également touchés. À Montréal, des dizaines de vols à destination ou en provenance des Maritimes et de la côte est américaine sont annulés jeudi. Les voyageurs sont invités à vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Je ne voudrais pas être alarmiste, mais ce ne sera pas beau. Il faudra éviter de se déplacer sur les routes jeudi soir et même vendredi durant la journée. La visibilité sera nulle, affirme M. Bégin. Et le froid? Il sera extrême. La vague de froid glacial qu'on a connue à la fin de décembre, une des plus longues, sinon la plus longue de l'histoire du Québec depuis 1942, va se poursuivre. Des températures très froides vont suivre la dépression, indique M. Bégin. Avec le refroidissement éolien, on va atteindre moins 20 et moins 30 degrés. La nuit de samedi à dimanche sera très froide. L'an dernier, à pareille date, il faisait 2 degrés Celsius à Montréal, comme quoi les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. On parlait hier de la cellule de prospectivistes qui tente d'informer le gouvernement fédéral des tendances et de ce qui va probablement se passer dans les années à venir. Eh bien, Hugo de Grandpré de la presse poursuit un peu sur la même lancée en nous parlant de l'avenir du service aux citoyens. Le titre encore là dit beaucoup. Une question pour Ottawa. Un robot pourrait bientôt vous répondre. Ottawa se prépare à expérimenter avec l'intelligence artificielle pour répondre à des demandes d'accès à l'information, pour élaborer des politiques ou pour répondre aux questions des citoyens au moyen d'agents de conversation, les chatbots. Au cours d'un entretien téléphonique avec la presse, le dirigeant principal de l'information du gouvernement fédéral, Alex Benet, a confié que de nouvelles technologies sont sur le point d'être explorées pour adapter l'appareil bureaucratique aux possibilités du 21e siècle. L'homme de 36 ans, originaire de la région de Québec, a été nommé en avril à la tête de la plus grosse opération informatique au pays afin de moderniser les façons de faire dans la foulée d'échecs notoires comme le système de paye Phoenix. Le gros de mon boulot pour l'instant, c'est de s'assurer qu'on arrête de répéter les mêmes erreurs. Pour y arriver, M. Benet espère limiter la taille des projets auxquels s'attaquent les services informatiques du gouvernement qui emploient 17 000 personnes et dépense près de 6 milliards de dollars par année. Il souhaite aussi stimuler l'innovation et pousser la machine étatique à acheter ou développer de nouveaux outils plus rapidement. L'intelligence artificielle fait évidemment partie du lot. C'est un dossier qui commence à prendre de l'ampleur, dit M. Benet. Parmi les applications possibles d'intelligence artificielle, il y a des chatbots par rapport aux services, a précisé le dirigeant. La possibilité d'avoir recours à de tels logiciels de conversation automatisée pour répondre aux questions de citoyens sur le web est utilisée par est étudiée par quelques ministères. Ces robots sont de plus en plus répandus dans le secteur privé, notamment pour le commerce en ligne ou les entreprises de services. Il y a l'analyse de politiques futures, a-t-il ajouté. Donc, si on veut créer telle ou telle nouvelle politique, on est peut-être capable d'en prédire l'impact avec les données qu'on a. De telles analyses basées sur les mégadonnées dans le secteur public sont d'ailleurs parmi les solutions d'avenir prônées par un proche de Justin Trudeau, Tom Pitfield, qui était à la tête de l'organisme Canada 2020 et qui dirige une entreprise située à Montréal, Data Sciences, offre déjà des services au Parti libéral du Canada et à d'autres formations politiques, dont En Marche du président français Emmanuel Macron. Ça peut aussi être de faire l'analyse de données par rapport à des demandes d'accès à l'information, affirme M. Benet. Actuellement, une personne qui souhaite obtenir un renseignement du gouvernement fédéral peut présenter une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information auprès des ministères ou organismes concernés. Les fonctionnaires effectuent alors une recherche à la pièce dans la panoplie de données dont ils disposent à l'interne. Mais le processus peut être long, coûteux et il ouvre la porte aux erreurs de toutes sortes. L'automatisation, d'une partie du processus en ayant recours à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage profond aurait donc le potentiel de le faciliter. Donc, obtenir des réponses par un robot. Et si jamais ça marche avec les fonctionnaires, est-ce qu'on pourrait essayer avec Mélanie Joly? Une faille dans les microprocesseurs suscite l'inquiétude. C'est un texte de Julie Charpentras et d'Erwan Luca de l'agence France Presse et c'est potentiellement très, très important comme vous allez le voir. Des fabricants de microprocesseurs, le composant qui fait tourner les ordinateurs et autres appareils électroniques, ont reconnu mercredi qu'ils pouvaient être vulnérables à une faille de sécurité, mais se sont attachés à minimiser les risques de piratage. Selon le site spécialisé britannique The Register, les puces du géant américain Intel, et ça, il y en a à peu près partout, présentent un important problème de sécurité dû à un défaut dans la conception même du produit. Potentiellement, cela pourrait permettre à des pirates de prendre le contrôle d'un ordinateur et d'accéder aux données, mots de passe, numéro de carte bancaire, etc., qui y sont conservés, affirme le média, ainsi que de nombreux experts en cybersécurité. Ces affirmations ont fait dégringoler le titre Intel en bourse, moins 3,40% à la clôture de Wall Street. Son patron, Brian Krasnich, a affirmé sur la scène CNBC que le souci touchait tous les microprocesseurs modernes et pas seulement ceux de son groupe. Selon M. Krasnich, Intel est au courant depuis quelque temps du problème après des recherches effectuées par des experts en sécurité de Google. Des acteurs malveillants pourraient certes accéder aux informations de l'ordinateur, reconnaît Intel, mais au travers de procédés techniquement très complexes, rendant extrêmement difficile son exploitation par des pirates. Intel indique qu'il avait l'intention de révéler le problème la semaine prochaine en même temps que d'autres entreprises concernées. Il est courant que les entreprises informées d'un risque de piratage mettent au point des correctifs de sécurité, des patchs, et préviennent leurs clients avant de rendre publique la faille de façon à avoir une longueur d'avance sur les hackers. Mais devant l'ampleur des inquiétudes relayées dans la presse et par des experts en cybersécurité, le groupe a choisi de communiquer plus tôt que prévu, de même que Google. Ce dernier a confirmé sur son blog avoir découvert de graves failles de sécurité permettant de lire les mots de passe ou les clés de cryptage sur des appareils comportant des puces de marque Intel, AMD et ARM. Google précise en avoir informé les trois entreprises le 1er juin 2017. Si la faille peut effectivement permettre à des pirates d'accéder à des informations sensibles, Intel affirme qu'elle ne permet cependant pas de corrompre, modifier ou effacer des informations stockées dans l'ordinateur. L'entreprise ajoute ne pas avoir connaissance de tentatives d'utilisation de cette faille par des pirates. Et en terminant, je vous dirais, chaque fois que votre ordinateur vous demande « Voulez-vous conserver ce mot de passe ou le rendre automatique? » Eh bien, répondez non si c'est important.
fou. Je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver chanté par les charrues. Je vous laisse. Mon scraper, la pelle de bois pour vous rendre à la rue. Je vous laisse. La petite glace dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous. Je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Je vous laisse. Les enfants qui s'assomment en speechant des balles de neige en glace en pleine face, je vous laisse. Les enfants qui ont la langue collée sur les tracks et qui pleurent parce que le train s'en vient, je vous laisse. Les enfants mangés par la souffleuse à 4 heures dans un fort trop sucré. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous. Je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous assis dans la soupe bleue jusqu'au cou. Je vous laisse le but du Canadien compté par Jean Béliveau sans aide. Je vous laisse les pieds gelés dans la slotch, un transfert entre les dents. Je vous laisse mes chaloupes dans le portique, mes mitaines et ma gratte en plastique. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous.
Évidemment, Robert Charlebois et sa chanson « Demain l'hiver ».
Tout à fait de circonstance. Merci, Mathieu. Alors, on passe immédiatement aux pages du Devoir. Marie-Michel Sioui s'est demandé si les annonces faites cette année par Philippe Couillard de sa position constitutionnelle visant à réintégrer le giron de la Constitution par le Québec, qui ne l'a toujours pas ratifié, la Constitution de 1982. Donc, Marie-Michel Sioui s'est demandé si ces efforts-là avaient été reçus au Canada ou avaient suscité de l'intérêt. Le titre dit tout encore, « Constitution, le rock reste sourd aux appels de Couillard ». La politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes du gouvernement Couillard n'a pas permis de reprendre le « dialogue about us ». Elle a dû se contenter d'une couverture médiatique marginale dans le reste du Canada, révèle des documents du ministère du Conseil exécutif, le MCE, qui est le ministère du Premier ministre. L'offensive constitutionnelle tranquille, lancée en grande pompe il y a 7 mois, est au cœur des activités du secrétariat du Québec aux relations canadiennes, atteste le ministère du Conseil exécutif dans des documents dévoilés en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Elle touche l'ensemble des employés de ce ministère et sa mise en œuvre occupe de façon plus particulière environ 7 personnes. Mais elle n'a toujours pas trouvé le moyen de faire les manchettes dans le rest of Canada. Dans la semaine où elle a été lancée, la politique d'affirmation nationale a connu un impact médiatique beaucoup plus grand au Québec qu'ailleurs au Canada, reconnaît le MCE, qui a effectué une vaste veille médiatique. Dans la semaine du 29 au 4 juin 2017, la relance du débat constitutionnel par Québec s'est classée au 5e rang du palmarès de l'actualité québécois dressé par Influence Communication. Elle est demeurée absente du top 5 canadien. Cette quasi-indifférence canadienne n'entame cependant pas la confiance du ministre responsable des relations canadiennes, Jean-Marc Fournier. La politique d'affirmation du Québec est une démarche de longue haleine, a-t-on fait valoir mercredi à son cabinet. La couverture médiatique est un indicateur de pénétration du message, mais il est loin d'être le seul, y a-t-on dit, soulignant notamment l'accueil très positif que le milieu universitaire a réservé au projet. 2 mois avant de lancer la politique d'affirmation du Québec, devant le tollé suscité par la série télévisée Canada, « The Story of Us », Jean-Marc Fournier disait espérer reprendre un dialogue « about us » d'un bout à l'autre du pays. La CBC, qui avait alors produit l'émission dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, était alors sous le feu des critiques pour sa représentation circonscrite de l'histoire autochtone, son passage sous silence de la déportation des Acadiens et son portrait réducteur des figures historiques françaises, notamment. Let's talk about us. Essayons encore de reprendre un dialogue pour qu'il y ait de la place pour chacun, avait alors suggéré le ministre. Le jour de la fête du Canada, il publiait une lettre ouverte dans laquelle il qualifiait sa politique d'affirmation nationaliste de proposition de rapprochement. L'objectif de ce nouveau dialogue est d'établir de plus nombreuses solidarités économiques, sociales et culturelles entre les citoyens du Québec et ceux de partout ailleurs au Canada et de mieux se connaître pour mieux se reconnaître, écrivait-il. Sauf que ce rapprochement ne s'est pas reflété dans les médias. D'ailleurs, ceux-ci ont surtout été informés en français de la nouvelle approche constitutionnelle du Québec. Le ministère a ainsi acheminé 150 copies francophones de sa politique qui tient sur 194 pages aux journalistes. Seuls 10 documents rédigés en anglais ont été transmis à des représentants des médias. Sur la scène politique hors Québec, l'accueil a été glacial. En date du 27 novembre 2017, les dirigeants de 7 des 13 provinces et territoires du pays n'avaient pas réagi à l'initiative québécoise, selon le MCE. Le ministère a ainsi attribué la mention « Aucune réaction » à la Colombie-Britannique, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, à la Nouvelle-Écosse, au Nunavut, au territoire du Nord-Ouest et au Yukon. Deux mois plus tôt, le 27 septembre, le gouvernement achevait le lancement d'unités de relations canadiennes au sein de chacun des ministères québécois afin que ceux-ci puissent consolider les relations avec le reste du Canada dans leur secteur. On revient encore sur une nouvelle d'hier pour parler de hausse du salaire minimum puisque la Banque du Canada a pondu une étude sur l'impact de la hausse prévue. Éric Desrosiers signe un texte intitulé « La hausse du salaire minimum fera perdre 60 000 emplois au Canada ». La hausse du salaire minimum au Canada se traduira à court terme par la perte de 60 000 emplois et une croissance économique légèrement moins forte, estime une analyse de la Banque du Canada, mais aussi par une augmentation du revenu des travailleurs au bas de l'échelle. L'augmentation marquée du salaire minimum en Ontario et en Alberta, ainsi que sa hausse plus modeste au Québec et en Colombie-Britannique, auront, comme on pouvait l'espérer, un impact positif sur le revenu des travailleurs, ont conclu des économistes de la Banque centrale canadienne dans une note analytique la semaine dernière. Le salaire réel moyen au Canada devrait ainsi augmenter d'environ 0,7% d'ici 2019, avec bien sûr pour principaux bénéficiaires les quelques 8% de travailleurs canadiens au salaire minimum, mais aussi dans une moindre mesure les salariés gagnant à peine plus et appartenant au groupe des 15% de travailleurs les moins bien payés. La hausse de ces salaires n'aura toutefois pas que des effets positifs, préviennent les auteurs de la note. Elle augmentera les coûts de fonctionnement des entreprises qui n'auront d'autre choix que de refiler au moins une partie de la facture aux consommateurs, augmentant d'environ 0,1 point de pourcentage, l'inflation et réduisant la croissance économique de 0,1% d'ici 2019. L'augmentation du pouvoir d'achat des salariés les plus modestes profitera très certainement à l'économie, précise-t-on, mais comme il ne compte que pour environ 4% de tous les consommateurs, l'augmentation générale du coût de la vie et son influence à la hausse sur les taux d'intérêt contrebalanceraient amplement cet effet bénéfique. Un autre des projets de Denis Coderre qui risque de passer à la trappe, Jeanne Corriveau signe un texte intitulé « Pas de trottoir chauffant sur la rue Sainte-Catherine ». Les travaux de la rue Sainte-Catherine-Ouest débuteront la semaine prochaine, mais l'artère emblématique ne comportera vraisemblablement pas de trottoir chauffant comme envisagé dans le projet initial. L'expérience de la place Vauclin, où le système de pavés chauffants ne fonctionne pas, a incité l'administration de Valérie Plante à remettre en question le recours à cette technologie pour la rue Sainte-Catherine. Lorsqu'elle a été élue mairesse de Montréal en novembre dernier, Valérie Plante avait pris l'engagement de revoir plusieurs projets de son prédécesseur. Le projet de la rue Sainte-Catherine-Ouest en faisait partie. On ne met pas le projet aux poubelles, absolument pas, et on ne veut pas retarder les travaux, ils sont nécessaires. On a hâte de créer cette nouvelle rue Sainte-Catherine qui est tellement attendue, a expliqué au Devoir la mairesse mercredi. Mais il y a des choix qui ont été faits par la précédente administration. On a décidé de les remettre en question et de fouiller un peu plus avant de donner le go. Montréal procédera à compter du 8 janvier prochain à la réhabilitation de l'égout collecteur situé sous l'artère entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue de Bleury lors de la première phase des travaux. La phase 1 du projet, dont le coût est estimé à 131 millions, s'attardera au tronçon situé entre les rues Mansfield et de Bleury, incluant le réaménagement du Square Phillips. D'ici la fin de 2021, c'est toute la rue Sainte-Catherine-Ouest entre les rues de Bleury et Atwater qui sera réaménagée avec des trottoirs plus larges. L'administration Plante s'apprête toutefois à larguer les trottoirs chauffants, dont les coûts sont estimés à 26 millions. La mairesse évoque les difficultés rencontrées avec les dalles chauffantes installées à la place Vauclin dans le cadre des travaux de 14,7 millions en fait, pour la reconstruction du site. En faisant disparaître la glace et la neige, ce système devait réduire le bris des dalles attribuables à la machinerie de déneigement. Ce système n'est toujours pas fonctionnel. Lors du passage du Devoir à la place Vauclin mercredi midi, un véhicule de déneigement s'affairait d'ailleurs à déblayer le site. « Je regarde par ma fenêtre et je vois les résultats non concluants », admet Valérie Plante. « On est en train d'évaluer la question des trottoirs chauffants sur la rue Sainte-Catherine. Les trottoirs chauffants sont-ils la meilleure façon d'investir l'argent des Montréalais ou est-ce dans une amélioration de l'expérience de la rue, le mobilier urbain ou dans la façon de concevoir la rue? Chaque dollar est tellement important qu'on veut s'assurer qu'il s'agit des meilleurs choix. » Restez à l'écoute, on revient dans quelques instants avec le Journal de Montréal.
Cherche le bien, de bien cherche la fin de ton hiver. Trouve-moi sur ton chemin. Charpente, si mes boutures de colère si plus rien ne dépasse, c'est peut-être qu'ils nous ont eu.
C'est la chanson du groupe avec podcast.
Alors, on passe aux pages du Journal de Montréal, donc où Francis Alain s'est lui aussi intéressé au salaire minimum, mais pour donner la parole à Daniel Boyer, président de la FTQ, un texte intitulé « La FTQ enfonce le clou du salaire minimum à 15 $ de l'heure ». Le numéro 1 de la plus grande centrale syndicale du Québec décoche une flèche bien sentie à l'endroit des riches dirigeants d'entreprises qui s'opposent toujours au salaire minimum à 15 $ de l'heure. À un moment donné, quand tu as 3 maisons un peu partout dans le monde, 4 chalets, 5 bateaux et 6 Mercedes, t'en as peut-être assez. Partage un peu et permets à tes employés de gagner leur vie décemment, s'insurge Daniel Boyer, président de la FTQ, représentant plus de 600 000 travailleurs et travailleuses. M. Boyer ne comprend pas pourquoi les patrons des grandes entreprises sont souvent les premiers à monter aux barricades contre le salaire minimum à 15 $ l'heure, a-t-il dit mercredi en marge du bilan de la centrale à Montréal. La Banque du Canada soutenait dans une note analytique que la hausse du salaire minimum donnerait de meilleurs revenus aux Canadiens tout en fragilisant 60 000 emplois au pays. Pire encore, quand on fait remarquer à M. Boyer que des sociétés comme Couche-Tard ont peur de devoir être forcées de fermer des magasins en raison de cette hausse, il s'insurge contre la situation. Alain Bouchard, PDG de Couche-Tard, celui qui gagne plus de 400 fois le salaire moyen de ses employés, répond M. Boyer du tac au tac pour enfoncer le clou. Daniel Boyer rappelle qu'en 1983, les plus grands chefs d'entreprise canadiennes gagnaient 103 fois le salaire moyen de leurs employés. En 1994, 184 fois. Et aujourd'hui, 200, partage-t-il. Il déplore l'écart de plus en plus grand entre les plus riches et les plus pauvres et promet du même souffle d'en faire une priorité lors de la prochaine campagne électorale. Pour M. Boyer, il est faux de dire que le salaire minimum à 15 $ l'heure a été une catastrophe, comme le répètent certains groupes d'intérêt du monde des affaires. À Seattle et à New York, où le salaire a été haussé, les petites entreprises se sont bien adaptées, contrairement à ce que dit la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, observe-t-il. Le chef de l'AFTQ dit d'ailleurs avoir invité le premier ministre Philippe Couillard à une table d'experts pour mieux documenter les effets réels du salaire minimum à 15 $ l'heure. On flushe le dossier en se disant qu'on n'augmentera pas les salaires minimums, le salaire minimum. Pendant ce temps-là, on fait vivre des gens dans la pauvreté. C'est ça qui n'est pas correct, regrette-t-il. Le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, va même jusqu'à dire que la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante au Québec subira bientôt la pression de l'Ontario. Vous allez voir qu'un jeune étudiant québécois de l'Outaouais qui veut travailler dans un restaurant pensera peut-être aller en Ontario où le salaire sera plus élevé, résume-t-il. On demeure avec le même journaliste, le même événement, donc une réunion de la FTQ. Non au test aléatoire pour déceler le pot chez les travailleurs. Les hauts dirigeants de la FTQ craignent que des employeurs imposent des tests aléatoires aux travailleurs pour déceler la consommation de marijuana récréative dès son achat légal au Canada en 2018. On ne souhaite pas qu'il y ait de chasse aux sorcières et de tests de dépistage aléatoires. On ne veut pas ça. S'est inquiété Daniel Boyer, le président de la FTQ, en marge d'une conférence de presse sur les priorités syndicales en 2018. Monsieur Boyer insiste. En aucun cas, les travailleurs ne doivent rentrer au boulot sous l'effet du cannabis ou de l'alcool, mais les tests aléatoires ne sont pas la solution. Le grand patron de la FTQ considère que ce n'est pas parce que les États-Unis font ce type de test que le Québec doit faire la même chose. Il rappelle que son organisation syndicale n'est ni pour ni contre la légalisation du cannabis, mais que l'imposition de tests aléatoires ne respecterait pas les droits des travailleurs québécois. François Lompré, avocat spécialiste du droit du travail et de l'emploi chez Borden Ladner Gervais, dit comprendre les inquiétudes de la FTQ qui veut défendre ses membres face aux patrons, mais estime qu'il y a peu de chances que ce genre de test voie le jour. Cette crainte-là n'est pas fondée parce que les règles de droit qui vont devenir applicables quand le cannabis sera légal ne seront pas différentes de celles en matière d'alcool et ne permettront pas plus le test aléatoire que présentement, affirme-t-il. Il affirme que la fiabilité des tests pour détecter la présence de cannabis est aussi très controversée. Un employé qui fume un joint le dimanche soir pourrait échouer à un test lundi matin, même s'il n'est plus sous l'effet de la substance. Pour Serge Cadieux, le secrétaire général du syndicat, les tribunaux ont même déjà réglé la question. La règle, c'est que l'employeur a le droit de faire évaluer un salarié s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas dans un état normal, explique-t-il. L'avocat François Lompré est d'accord avec cette lecture. Il pense que la Cour suprême du Canada a mis des balises très strictes. Si le travailleur peut mettre en danger sa vie, sa santé, celle de ses collègues ou du matériel de l'entreprise, à ce moment-là, tu as le droit de le faire évaluer, résume le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux. Il est assez fréquent dans le marketing des écoles privées, des écoles secondaires privées, qu'on vous dise que votre enfant ici va travailler avec sa tablette. La grande question, c'est est-ce que la tablette le suit partout après? Est-ce que ça doit faire partie de la vie du jeune travailleur moderne? Eh bien, il semblerait que au cégep, le succès soit assez mitigé. Tablette peu utile au cégep pour les finissants du iPad, c'est un texte de Daphné Dionvien. Les finissants du iPad, ces élèves qui ont complété leur secondaire avec une tablette au bout des doigts, se butent à un constat une fois arrivés au cégep. La tablette y est rarement utilisée en classe et peu utile. Voilà l'une des conclusions d'une étude réalisée par l'équipe de Patrick Giroux, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, auprès d'environ 80 jeunes qui ont fait leurs études secondaires en utilisant une tablette. La majorité d'entre eux sont maintenant au cégep. Parmi les finissants, 65 % ont le droit d'utiliser leur tablette en classe, mais seulement le tiers d'entre eux l'utilisent fréquemment. Parmi ceux qui ne trimballent pas leur tablette au cégep, la moitié préfère utiliser un ordinateur portable, alors que d'autres affirment que leur iPad n'est tout simplement pas utile au cégep. Pour Patrick Giroux, le verdict est clair. Ces finissants du iPad constatent une cassure lorsqu'ils arrivent au cégep, ce qui soulève des questions, affirme-t-il. Les enseignants utilisent peu d'applications disponibles sur tablette, encore moins dans des programmes techniques où les étudiants apprennent à travailler sur des ordinateurs avec des logiciels spécialisés, constate M. Giroux. Les écoles qui utilisent les iPads doivent donc s'interroger sur la meilleure façon de préparer leurs élèves pour le cégep et la réponse n'est pas simple, ajoute le professeur de l'UQAC. Quant à la pertinence d'utiliser la tablette au secondaire, la majorité des étudiants s'entendent pour dire que ce projet est positif, mais qu'il pourrait être amélioré, peut-on lire dans le rapport de recherche. La tablette pourrait être davantage utilisée en classe au secondaire et les enseignants devraient être mieux formés pour le faire. Certains élèves soulignent toutefois que ces petits appareils électroniques sont souvent une source de distraction en classe, ce qui devrait être mieux encadré. À la Fédération des cégeps, on affirme que les collèges veulent améliorer les compétences numériques de leurs étudiants, mais qu'ils ne peuvent s'adapter à une minorité d'élèves habitués à utiliser la tablette en classe. Il ne faut pas le voir comme un retard de la part du cégep, affirme son président-directeur général Bernard Tremblay. M. Tremblay rappelle par ailleurs que l'autonomie professionnelle des enseignants leur permet de choisir leurs moyens d'apprentissage. « Je les comprendrais de dire que ce n'est pas adapté à leur réalité et aux besoins de leurs étudiants », ajoute-t-il.
I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit. Team main girl, team main girl, team main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now I'm just a pretty face, who can help you? Just a pretty face, who can help you? Get your shit together. Baby, come and walk my way. Who's your main girl? Who's your main girl? Who's your main girl? When it comes to four, I'm not there anymore. I'm in Technicolor painting line before your main girl. Your main girl, this insane world. So now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Who can help you? Get your shit together.
C'était évidemment Charlotte Cardin, sa chanson « Main Girl ».
Oui, Charlotte Cardin qui fait les manchettes, ce sur quoi nous reviendrons dans le volet culturel de cette émission. Immédiatement et sans plus attendre, des sujets un tout petit peu plus légers, légers pour moi qui vous parle, peut-être pas pour vous qui vous préparez à prendre des vacances. De la neige en Floride, du jamais vu depuis 29 ans. Les habitants du nord de la Floride n'avaient pas vu de neige depuis près de 3 décennies jusqu'à ce que la vague de froid qui frappe la côte est des États-Unis les atteigne mercredi à leur tour. Le Service météorologique national américain a mis en garde contre une sévère tempête hivernale qui doit entraîner de fortes chutes de neige mercredi et jeudi de la Floride au sud jusqu'à la région de la Nouvelle-Angleterre dans le nord-est du pays. Un avis de tempête a été déclenché pour la ville de New York, où 8 à 15 cm de neige sont attendus entre mercredi soir et jeudi. C'est la même tempête qui va nous honorer de sa présence dans la fin de cette semaine. Alors, on fait des études surtout, et j'allais dire n'importe quoi. Caroline Monpetit du Devoir nous parle d'une autre de ses œuvres, une brève histoire du caca en Occident. Laurent Turcot a décidé d'intéresser son monde à l'histoire et prend les grands moyens pour y arriver. Le tout premier épisode de sa nouvelle chaîne YouTube consacrée à l'histoire, intitulé « L'histoire le dira », porte sur la merde, un sujet qui touche tout le monde. Dans une vidéo d'une quinzaine de minutes qui lance sa série, qui portera par ailleurs aussi sur les loisirs, les sports et bien d'autres choses, Turcot plonge dans l'histoire de la représentation des excréments en Occident. Il en ressort des trouvailles assez intéressantes. Ainsi, Turcot nous cite un échange épistolaire du 17e siècle, oui, entre Élisabeth Charlotte de Bavière et sa marraine Sophie Charlotte de Hanovre. Dans sa réponse à sa filleule, Madame de Hanovre décrète que « les plus belles femmes sont celles qui chient le mieux. Celles qui ne chient pas deviennent sèches et maigres et par conséquent laides. » Prenez donc note, mesdames. Pour démontrer la relation trouble qui lie la conscience occidentale aux déjections, Laurent Turcot montre un tableau daté d'Adrian van Ostane peint en 1643, foire au village autour d'une église. Dans sa version originale, le tableau montre dans son coin droit un homme en train de déféquer devant un chien. À l'époque, les peintres démontraient ainsi, explique l'historien, qu'au bout du compte, les humains sont tous pareils devant la merde comme devant la mort. Or, ce tableau, acquis par George IV en 1810, a été restauré et transféré au palais de Buckingham au début du 20e siècle. Et ce n'est qu'en 2015, lorsque des restaurateurs l'ont nettoyé pour une exposition, qu'on a remarqué que le personnage en question avait été camouflé par un arbuste peint bien après la réalisation du tableau original. Certains n'ont cependant pas daigné se plier aux exigences dictées par les règles de bienséance de leur temps. Le roi Saleh ne faisait-il pas usage d'une chaise percée qui lui permettait de se soulager à l'aise, même en public, au risque de choquer les dignitaires présents? Alors, si vous voulez serrer la main d'un saint, eh bien, c'est l'occasion ou jamais, puisque sachez-le, le bras droit de Saint-François-Xavier fait une tournée au Canada pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, tournée pan-canadienne pour un bras vieux de 465 ans, un texte de Gabriel Bellan. Le bras d'un missionnaire jésuite vieux de 465 ans et réputé incorruptible a entamé hier à Québec une tournée pan-canadienne digne d'un groupe rock. 14 villes en 30 jours. Le bras droit de Saint-François-Xavier, habituellement conservé dans un reliquaire dans l'église du Jésus à Rome, est arrivé par avion au pays le 26 décembre. Le membre en état de décomposition et l'état est l'objet d'un culte chez les catholiques, une vieille tradition qui déplace les foules mais ne fait pas l'unanimité dans le monde chrétien. Ils étaient quelques fidèles hier matin à s'être présentés à la basilique cathédrale de Québec pour admirer le bras du saint. Léopold et Lisette Neveu avaient fait la route depuis Mirabel, au nord de Montréal, pour l'occasion. « Je voulais commencer l'année avec une bénédiction spéciale », expliquait Mme Neveu, 69 ans. « On dit qu'il fait des miracles. » François-Xavier est né en Navarre, aujourd'hui en Espagne, en 1506, à 35 ans. Il est parti pour Goa, en Inde, avant de s'aventurer au Japon et en Chine, où il est mort en décembre 1552. Son corps a d'abord été enterré sur une plage chinoise, puis exhumé deux fois avant d'être finalement envoyé à la basilique du Bon Jésus de Goa, où il se trouve toujours. Le corps de Saint François-Xavier est considéré comme incorruptible. Il serait résistant à la décomposition, comme une centaine d'autres dépouilles dans la tradition catholique. Son bras droit a été sectionné en 1614 par un jésuite et rapporté à Rome. Le corps, lui, est toujours à Goa, où il n'est visible au public qu'une fois tous les 10 ans. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver dans un avion, d'avoir atterri et de vous demander sérieusement coudon, on débarque-tu? Eh bien, sachez qu'il y a un passager espagnol qui a résolu le problème d'une étrange façon. Un passager de Ryanair, fatigué d'attendre, s'installe sur l'aile. Ça vient de l'agence France Presse. Un passager d'un vol de la compagnie Ryanair, reliant Londres à Malaga, dans le sud de l'Espagne, visiblement lassé d'attendre le débarquement à l'arrivée, s'est installé sur l'aile de l'avion, a-t-on appris mercredi auprès de la compagnie et d'un témoin. Cela faisait environ une demi-heure que nous attendions pour sortir de l'avion. Ce monsieur s'est dirigé tranquillement vers la sortie de secours, il a tiré sur le mécanisme d'ouverture, a regardé dehors, puis il est revenu chercher son sac à dos et il est sorti sur l'aile, a raconté à l'AFP Fernando Del Val, un passager. Sur les images postées sur son compte Facebook, on observe un homme qui marche sur l'aile et pose son sac à dos avant de s'installer à côté. Le commandant de bord était sidéré. Il a demandé qui était sorti sur l'aile, a raconté ce vacancier espagnol qui rentrait lundi soir de Londres à bord du vol FR-8164, parti avec une heure de retard et arrivé une vingtaine de minutes après l'heure prévue vers 23h10 à Malaga. L'homme dont l'âge et l'identité n'ont pas été révélés par Ryanair a été immédiatement arrêté, a précisé une porte-parole de la compagnie en Espagne dans un communiqué transmis par mail. Le commandant de l'avion a requis l'intervention de la garde civile qui a identifié le passager et a signalé une infraction à l'agence de sécurité aérienne, a précisé de son côté un porte-parole de la garde civile, à ne pas imiter donc. Cette année, on va beaucoup entendre parler du verglas de 1998, tout simplement parce que ça fait 20 ans tout juste. C'est aussi une occasion assez particulière puisque le stress vécu par les gens à cette époque-là a pu être mesuré et qu'on peut à terme voir si ça a des conséquences. Et il y a une chercheuse qui s'est intéressée à la question de savoir si les enfants qui étaient à ce moment-là portés par des mères enceintes étaient différents de ceux qu'on trouve sur le marché usuel, appelons ça comme ça. Le stress des mères détecté chez les enfants du verglas, c'est un texte d'Andréane Chevalier. Il y a 20 ans, le Québec faisait face à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de son histoire. Entre le 4 et le 10 janvier 1998, la tempête de verglas a laissé jusqu'à 100 mm de pluie verglaçante sur son passage, plongeant dans le noir plus d'un million d'abonnés d'Hydro-Québec au pire de la crise. Premier texte d'une série à lire jusqu'à samedi sur cet épisode marquant. Un grand stress vécu par une mère enceinte peut accroître des facteurs de risque chez l'enfant à naître. Par exemple, parmi les participants d'une étude nommée Projet Verglas, les filles dont les mères ont ressenti enceintes un stress plus élevé ont consommé plus de cannabis à 15 ans que celles dont les mères ont ressenti un stress moins grand. Le projet Verglas, mené par la professeure en psychiatrie Suzanne King, étudie les conséquences du stress subjectif et objectif vécu par les femmes enceintes au moment de cette catastrophe naturelle qui a figé sous la glace et plongé dans le noir une grande partie du Québec en janvier 1998. Il suit régulièrement, et depuis 20 ans, des enfants du verglas, mais nés dans la foulée de cet événement. Il a été aussi observé qu'à l'âge de 19 ans, les filles du projet Verglas, qui ont une glande pituitaire plus grande, ont une consommation plus élevée de cannabis. Ceci est important, car le pituitaire est la glande maîtresse du corps. Par exemple, elle contrôle la sécrétion des hormones de stress, de reproduction, de croissance, etc., précise la chercheuse postdoctorale Sherry Lee Jones, membre de ce projet de l'Université McGill et du Centre de recherche de l'hôpital Douglas. Pour Mme Jones, ce résultat, quoique préliminaire, veut dire que le stress prénatal a un effet sur le système neuro-endocrinien qui peut ensuite expliquer des facteurs de risque comme un plus grand usage du cannabis. Tous les enfants qui participent à cette étude vont bien et leur développement est normal, répètent Mme King et ses collègues. Certaines conséquences des événements de 1998 sont toutefois mesurables et ont été démontrées au fil des années. Parmi celles-ci, on note que les enfants dont les mères ont connu un grand stress objectif ont un QI de 10 points moins élevé que les enfants dont les mères ont connu un stress moins grand. Et on parle aussi d'un indice de masse corporelle plus élevé. Au retour, nouvelles internationales. À tout de suite.
Combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleurir et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je t'en veux, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route, le monde m'émerveille. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de ceux qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes. Perdu ne se rattrape plus.
C'était Ima qui nous chantait la chanson « Dis, quand reviendras-tu ?»
Et ça nous amène aux nouvelles internationales où on parle d'abord d'Iran. L'Iran qui est secoué par une vague de manifestations. On ne parle pas encore de révolte et encore moins de révolution. Mais le régime montre les dents, ce que a rapporté Célia Massé, d'abord dans Libération, qui est un texte qui a ensuite été repris dans les pages du Devoir. Le régime iranien sème l'effroi. Après les manifestations qui ont fait une vingtaine de morts dans plusieurs villes de province, les autorités reprennent la main, menaçant de lourdes sanctions ceux qui osent défiler et braver la peur de la répression. Sûr de lui, le chef des gardiens de la Révolution, le général Mohammad Ali Jafari, a proclamé mercredi la fin de la sédition. La fronde qui agite l'Iran depuis une semaine a basculé dans une nouvelle phase. Le signal a été donné la veille par le guide suprême. Les ennemis de l'Iran se sont unis en utilisant leurs moyens, leur argent, leurs armes et leurs services de sécurité pour créer des problèmes au régime islamique, a-t-il dit lors d'une visite à des familles de martyrs de la guerre Iran-Irak. L'ayatollah Khamenei, filmé par la télévision d'État, s'adressait en réalité aux 80 millions d'Iraniens. En sortant de son silence et surtout en qualifiant ainsi les manifestants qui défilent, depuis une semaine, en descendant dans les rues de dizaines de villes du pays, il a sifflé le coup d'envoi de la répression, estime Ali Ansari, professeur d'histoire et spécialiste de l'Iran à l'université écossaise St. Andrews. Personne ne doit se faire d'illusions. Elle arrive. Les gardiens de la Révolution, qui se tenaient jusqu'ici en retrait, vont entrer dans le jeu. Ceux qui ont pensé que les choses avaient changé se trompent. En 2009 aussi, le régime avait mis du temps à réagir. Ce délai d'observation est normal. Cette fois, il a certes été pris par surprise, mais 20 personnes sont mortes en quelques jours, ça fait une grosse différence. La répression sera implacable. Dans le sillage du guide, mardi, le procureur général de l'Iran, Mohammad Jafar Montazeri, a affirmé que les tribunaux n'auraient aucune pitié pour les émeutiers. Et le chef du pouvoir judiciaire, Sadegh Larijani, a prévu que les Iraniens qui oseraient continuer à manifester seraient punis de sanctions plus lourdes. Comme en 2009, deux chefs d'accusation vont être utilisés, celui d'atteinte à la sûreté de l'État et celui de Moharib, littéralement celui qui part en guerre contre Dieu. Les condamnations vont de 10 ans de prison à la peine capitale, rappelle Karim Laïdji, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Puisque la République islamique est considérée comme sacrée, ajoute-t-il, celui qui prend les armes contre elle-même, un couteau ou un simple bâton, peut être accusé de Moharib. En 2009, une dizaine de personnes ont été condamnées à mort pour cela. Quand le chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, mardi, utilise ce terme publiquement, tout le monde en Iran comprend la menace. La peur est l'une des armes les plus efficaces du régime. Voilà bientôt 37 ans que la République islamique la distille dans les veines de la société iranienne, à tel point que rares sont aujourd'hui les témoignages qui parviennent à sortir des frontières du pays. Sur place, les quelques journalistes occidentaux sont cloîtrés à Téhéran. Les Iraniens qui parviennent à déjouer la censure d'Internet et les coupures de réseaux sociaux refusent le plus souvent de parler aux médias de crainte de représailles. Quand certains le font, c'est toujours de façon anonyme. Leur parole est précieuse, mais tous ces filtres la rendent difficilement représentative. Éduqués, connectés, relayés par la diaspora, souvent anglophone, ils sont plus proches du mouvement vert de 2009 que de ces jeunes des quartiers populaires qui crient chaque nuit leur colère. En 2009, c'était un mouvement organisé qui demandait une chose, revenir sur les résultats électoraux. Aujourd'hui, il n'y a ni leadership, ni objectif commun, analyse Karim Maïdji. Les militants du mouvement vert se méfient. Ils savent qu'en poussant les manifestations trop loin, ils vont non seulement subir une nouvelle vague de répression, mais aussi affaiblir le président Rouhani, un modéré qui a permis des avancées. Depuis 2009, l'appareil sécuritaire a perfectionné son appareil de répression, mais cette fois, il est confronté à un problème technique. La contestation est très éparpillée. Elle se déroule dans de minuscules villes de province, ajoute Mohamed Reza Djalili, professeur émérite à l'Institut des hautes études internationales de Genève. Hassan Rouhani n'aura d'autre choix que de se plier à la décision du guide, mais ils risquent d'avoir un problème d'image à l'international, car quand les gardiens de la Révolution sont lâchés, ils sont difficiles à retenir. On se déplace au Nigeria et malheureusement, comme c'est trop souvent le cas, pas pour de bonnes nouvelles. Nigeria, un attentat dans une mosquée fait au moins 14 morts, c'est un texte de l'agence France Presse. Un attentat attribué au groupe djihadiste Boko Haram dans une mosquée à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a fait au moins 14 morts mercredi matin, a-t-on appris de sources sécuritaires concordantes. Un homme s'est fait exploser peu avant la première prière du matin au milieu des fidèles musulmans dans une mosquée de Gamboru, état du Borno, selon des membres des milices civiles. Pour l'instant, 14 corps ont été sortis des décombres de la mosquée dans le quartier d'Ungouar, Abuja, qui a été totalement détruite par l'explosion. A rapporté Oumar Kachala, qui combat Boko Haram aux côtés de l'armée nigérienne. Mais le bilan pourrait s'alourdir, a-t-il précisé. Seul le muezzin a survécu et nous pensons qu'il y a beaucoup plus de victimes sous les décombres. Ah, que serait une journée de nouvelles internationales sans Donald Trump. Donald Trump, que d'ailleurs l'éditorialiste de la presse hier considérait, et il l'a écrit, comme un imbécile. Trump se lâche contre son ex-conseiller Bannon. Le 4 janvier, donc, Jérôme Cartillier, ça vient de l'agence France Presse, la charge est d'une violence inouïe. Donald Trump a accusé mercredi son ancien conseiller Steve Bannon d'avoir perdu la raison, marquant la rupture avec celui qui fut l'un des stratèges de sa victoire inattendue de 2016. Cette attaque, à la tonalité peu commune de la part d'un président américain, fait suite à la diffusion d'extraits explosifs d'un livre dans lequel l'ex-conseiller affirme que le fils du locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump Jr., a commis une trahison en rencontrant une avocate russe offrant des informations compromettantes sur Hillary Clinton. « Steve Bannon n'a rien à voir avec moi ou ma présidence », a lancé le 45e anniversaire des 45e président, oui, des États-Unis. Le changement de ton est spectaculaire vis-à-vis de cet homme à la crinière poivre et sel et à la démarche nonchalante que Donald Trump qualifiait il y a moins de 5 mois d'ami, de quelqu'un de bien, traité très injustement par la presse. « Steve n'a eu qu'un rôle très limité dans notre victoire historique », a-t-il dit mercredi, accusant ce dernier d'avoir passé son temps à la Maison-Blanche à faire fuiter de fausses informations pour se rendre plus important qu'il n'était. Au-delà de la nouvelle ligne de fracture qu'elle révèle, cette spectaculaire prise de bec soulève d'épineuses questions politiques pour Donald Trump à l'approche des primaires républicaines en vue des élections de mi-mandat prévues en novembre. Depuis son départ de la Maison-Blanche l'été dernier, Bannon s'est auto-désigné comme le sauveur du Trumpisme, face à ce qu'il juge être un dévoiement par les républicains du Sérail et les élites de Washington. C'est au nom de cette ligne qu'il avait défendu le très controversé Roy Moore dans l'Alabama. Après cette rupture, Trump ne risque-t-il pas de se couper de la frange la plus à droite de son électorat ou de devoir avancer à tâtons sur une ligne de crête dans un parti républicain scindé en deux? La base électorale du président est très solide, a rétorqué sa porte-parole Sarah Sanders. Et on parle tout de suite de Charlotte Cardin telle qu'a annoncé. Cédric Bélanger signe en effet un texte dans le Journal de Montréal la concernant. Une année faste pour Charlotte Cardin. Elle a déjà une légion d'admirateurs, Elton John n'étant pas le moindre. Et si la tendance se maintient, Charlotte Cardin confirmera en 2018 qu'elle est la nouvelle grande star musicale du Québec. Un potentiel aussi grand, on n'a pas vu cela depuis longtemps chez un artiste québécois. doué dans les deux langues officielles, capable de pondre une pop qui peut plaire autant aux hipsters qu'au grand public, pas pour rien que ses deux principales influences sont des artistes aux antipodes, Radiohead et Céline Dion, la Montréalaise de 23 ans qui concocte présentement son premier album complet a tout pour franchir une nouvelle étape dans son ascension lente et méthodique vers la gloire. Cardin, ex-mannequin de son état, est dans le décor depuis 5 ans. Elle a fait ses débuts, rappelons-le, à La Voix en 2013. Mais au lieu de profiter de sa présence en finale pour se précipiter dans le premier studio d'enregistrement venu, elle a décidé de ne rien brusquer et de prendre le temps qu'il fallait pour se découvrir et établir sa signature sonore. Ce genre de maturité ne court pas les rues. Pour ma part, tout son potentiel m'a explosé au visage à l'été 2016 lors de la soirée d'ouverture du Festival d'été de Québec. Avec un EP de 6 chansons sous le bras, Charlotte Cardin avait rendez-vous avec quelques centaines de personnes sur une scène secondaire destinée aux talents émergents, comme le sien. Or, à quelques heures d'avis, à la suite du forfait de l'Américaine Brandi Carlile, elle a plutôt été propulsée sur la grande scène des Plaines d'Abraham devant des dizaines de milliers de personnes qui attendaient de voir les vedettes Sting et Peter Gabriel. J'avais été frappé par son sang-froid lors de cette prestation parsemée d'embûches. C'était son premier concert sur une si grosse scène. Une large partie du public lui était indifférent. Il faisait froid et, comble de malheur, un micro défaillant lui a fait la vie dure. Malgré tout, Charlotte Cardin avait assuré comme une pro. Depuis, les signes qui ne mentent pas ne cessent de s'accumuler. Sous contrat avec d'importantes maisons de disques internationales, les critiques de ses mini-albums Big Boy et Main Girl, lancés en 2016 et 2017, ont été unanimement positives, ici comme ailleurs, puisque l'Europe est aussi tombée sous son charme. « La voix québécoise que l'Europe va adorer », dit très récemment son sujet Paris Match Belgique. Rien pour diminuer l'engouement. Sir Elton John a aussi vanté les talents de la Québécoise lors de son émission de radio sur la prestigieuse BBC. Puis, pas plus tard qu'il y a quelques jours, elle a encore reçu des éloges pour sa jolie chanson « L'amour au temps des catastrophes » composée pour l'ouverture de la revue de fin d'année d'Infoman et qui a été entendue par 2 millions de téléspectateurs. Avec pour résultat que ses concerts sont de plus en plus courus, en vue de sa première tournée dans les grandes capitales d'Europe fin février, début mars, un concert à Paris affiche déjà complet. Puis, à son retour au Québec, elle chantera à guichet fermé 3 soirs consécutifs à l'Impérial de Québec en mars aussi. Comme disent les Anglais, « The sky is the limit ». Le Musée des beaux-arts du Canada sera fermé en janvier. Le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa a annoncé qu'il fermera ses portes du 8 au 22 janvier prochain inclusivement pour poser des échafaudages et préparer des rénovations qui se feront au printemps. Ces rénovations impliquent le remplacement des vitres et de la toiture de l'entrée principale et de la colonnade du musée, qui sera par ailleurs ouvert durant les travaux plus tard cette année. Le comptoir et de la billetterie sera cependant relocalisé dans la salle Sketches. C'est un classique dans la région de Québec, prendre le traversier entre Québec et Lévis. Par contre, avec la glace, c'est pas toujours comme c'était prévu, dirons-nous. Coincé plus de 4 heures sur le fleuve, Guillaume Pied-de-Bœuf du Soleil. Les passagers d'un traversier ralliant Lévis et Québec ont été coincés sur le fleuve Saint-Laurent durant plus de 4 heures mercredi. Leur navire, entraîné à la dérive par les glaces, n'a pu être secouru par la garde côtière puisque le seul brise-glace canadien stationné à Québec était brisé. Or, la glace ne pose pas des problèmes qu'aux traversiers ces jours-ci. Parti à 9h30 de Lévis, le traversier NM Alphonse Desjardins a dérivé jusqu'à la hauteur du chantier Davy en raison de fortes glaces. Le capitaine a rapidement sécurisé le bateau en l'immobilisant puis a demandé l'aide de la garde côtière, a expliqué mercredi après-midi la porte-parole de la Société des traversiers du Québec, Maryse Brodeur. Mais le NGCC Terry Fox, unique brise-glace de la garde côtière à Québec, présentement étant brisé, la STQ a plutôt dû attendre l'aide d'un bateau-remorqueur du groupe Océan. Ce n'est donc vers 13h45, plus de 4 heures après le départ du traversier, que les passagers ont finalement rallié Québec. C'est une situation qui rappelle qu'il y a 15 ou 20 ans, quand les traversiers qui restaient coincés sur le fleuve étaient fréquents, a soutenu Maryse Brodeur, précisant que les passagers sont restés au chaud sur le navire mercredi, du café leur étant servi. À la garde côtière, le porte-parole Michel Plamondon a soutenu que les circonstances, oui, étaient malheureuses, mais exceptionnelles. Le NGCC Terry Fox a connu un bris mécanique plus tôt mercredi matin, a expliqué le porte-parole. Le brise-glace de la garde côtière, aussi dégroseillé, était attendu à Québec en renfort pour 20 heures mercredi, selon M. Plamondon. Selon ce qu'a appris Le Soleil, au moins un autre bateau, un navire cargo commercial qui tentait de quitter le port de Québec, s'est retrouvé pris dans la glace à dériver pendant une heure mercredi matin sans que la garde côtière ne puisse l'aider. Sabrina Mongeon, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, c'est cette personne à Gatineau qui a été électrocutée puis gelée à la suite d'un câble qui était tombé sur sa voiture. Eh bien, elle a fait l'objet d'une campagne de souscription et ça va bien, en fait, dans la mesure où ça peut aller bien. Un texte de Charles-Antoine Gagnon publié dans les pages du Droit. Samantha Mongeon n'avait que des éloges envers les citoyens mercredi pour leur soutien, leurs mots d'encouragement et leur générosité à la suite du terrible accident de la circulation dont a été victime sa sœur, Sabrina, le 25 décembre. À 22 heures mercredi, plus de 42 000 $ avaient été amassés en 48 heures sur un site de sociofinancement grâce à plus de 1030 dons de gens voulant aider la famille alors que Sabrina passera encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'hôpital à la suite de l'amputation de ses bras et ses jambes. Samantha a lancé une campagne sur le site www.onedollargift.com afin de recueillir des fonds pour permettre à sa mère de pouvoir passer le plus de temps possible aux côtés de Sabrina. L'argent servira à payer les déplacements et l'hébergement dans une chambre d'hôtel à proximité du Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM, où est hospitalisée la jeune Gatinoise de 18 ans. C'est sûr que c'est une situation difficile, mais de voir toute l'entraide, tout le soutien que le Québec nous donne, c'est incroyable. On est tellement reconnaissant. Je crois qu'on ne le réalise pas encore, a partagé Samantha Mongeon en entrevue avec Le Droit. La sœur de Sabrina qualifie d'ailleurs de magique les témoignages des gens. « Je ne peux pas passer une heure sans que je reçoive 10 messages sur ma page Facebook de gens que je ne connais pas et qui nous encouragent et qui disent que Sabrina les encourage par le fait qu'elle a décidé de vivre. C'est leur idole, c'est incroyable. Je crois que personne ne peut imaginer ce que ça peut faire à quelqu'un de recevoir ces messages », a signalé Samantha. Sabrina a été plongée dans un coma artificiel depuis les opérations pour éviter qu'elle souffre trop, a indiqué Samantha en fin d'après-midi, mercredi. Les médecins disent qu'elle nous entend quand on lui parle. Des fois, elle fait des petits sourires en coin, a-t-elle partagé. Sabrina a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poteau d'Hydro-Québec non loin de Gatineau. Elle retournait chez elle tôt le 25 décembre après avoir passé le réveillon de Noël en famille à Luskville, dans le Pontiac. Des fils électriques sont tombés sur sa voiture, mais elle ne les avait pas vus en sortant de la voiture. Elle a été électrocutée et a passé de longues heures à l'extérieur de son véhicule, dans le froid, avant qu'un bon Samaritain s'arrête et lui porte secours. Sabrina, qui souffrait de brûlures et d'engelures, a été transportée à l'hôpital de Hull avant d'être transférée au CHUM. À Sherbrooke, le mouvement québécois des mini-maisons naîtra. C'est d'ailleurs le titre de Jonathan Cousteau, publié dans La Tribune. L'engouement pour les mini-maisons gagne tout le Québec, si bien que le mouvement québécois des mini-maisons verra officiellement le jour à Sherbrooke le 27 janvier. L'Assemblée générale de fondation vise à créer un regroupement qui se chargera notamment de faire de la promotion et de la représentation auprès des différents paliers de gouvernement. La création du mouvement repose pour le moment entre les mains de Martin Saint-Don, ex-maire de Dixville, et d'Ursule Thériault, ex-mairesse de l'Île-Verte. Si Sherbrooke comptera le premier quartier de mini-maison en milieu urbain au Québec sous la forme d'une coopérative, Dixville travaille de son côté sur une réglementation qui permettra à des particuliers de construire leur propre maison. Un mouvement québécois permettra aux municipalités de partager de l'information, des réflexions et de faire une pression commune pour modifier certaines lois ou certaines idées reçues. Notre but, c'est de faire avancer les choses. Souvent, les règles empêchent les citoyens ou les promoteurs de construire des mini-maisons. Le mouvement devra compter sur des constructeurs, des promoteurs, des municipalités pour participer au débat. Il devra s'inscrire au registre des lobbyistes, explique Martin Saint-Don. Concrètement, il s'agit de promouvoir et favoriser l'implantation des mini-maisons au Québec. Il faudra d'abord s'entendre sur la définition de mini-maison. Certaines entreprises attirent les gens en galvaudant le nom et en prétendant faire des mini-maisons. Pour le moment, nous nous basons sur ce qui se fait aux États-Unis. Nous parlons donc de maisons de 300 à 600 pieds carrés. En dessous de ça, on parle d'une micro-maison. Les citoyens qui voudraient une résidence de cette taille se butent souvent à la réglementation municipale qui fixe un seuil minimum pour la taille des constructions sur son territoire. À Dixville, il y avait aussi un problème de zonage. Dans beaucoup de municipalités, il faut créer des îlots ou des secteurs particuliers pour recevoir les mini-maisons. On ne peut pas les intercaler entre deux maisons traditionnelles, ce qui est logique, explique Martin Saint-Don. Alors, c'est bien connu, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Et si vous cherchez une activité à faire par temps froid, en voici une. Petit poisson des chenaux, nous sommes choyés par le froid. C'est un texte de Mathieu Lamotte, publié dans les pages du Nouvelliste. En plus d'avoir permis de lancer à temps la pêche aux petits poissons des chenaux, l'arrivée de l'hiver ainsi que la vague de froid extrême qui a frappé le Québec au cours des derniers jours assure aux pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne que la présente saison de pêche se déroulera sans anicroche. En raison de l'épais couvert de glace qui recouvre présentement le cours d'eau à la hauteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, le président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte, est même en mesure d'avancer qu'un possible épisode de redoux n'aurait aucun impact négatif sur le bon déroulement des activités qui se poursuivent pour encore plusieurs semaines. Nous sommes choyés par le froid. Ça va super bien jusqu'à maintenant. Nous avons dû changer les lames sur les scies mécaniques qui servent à faire des trous dans la glace pour la pêche. La glace est rendue d'une épaisseur entre 20 et 22 pouces. Elle est donc très sécuritaire et nous sommes blindés pour le reste de la saison, explique-t-il, avant d'ajouter que les pourvoyeurs doivent habituellement procéder au changement des lames des scies mécaniques vers la troisième semaine de janvier. C'est un heureux problème, indique-t-il. Présentement, M. Massicotte estime entre 10 et 15% le taux d'inoccupation des cabanes. Et si ça vous inquiète, sachez qu'une cabane pour pêcher le célèbre petit poisson, eh bien, c'est chauffé. Le Soleil rapporte encore que Hydro-Québec doit dépenser 5 millions pour ses employés dits tablettés. Il s'agit essentiellement d'ingénieurs ou d'employés spécialisés que soient les relocalisations, les réorganisations ou encore la fermeture de Gentilly 2 a amené à l'inactivité en attendant qu'on les relocalise. Et voilà qui complète cette édition du 4 janvier 2018 du quotidien des quotidiens. Je serai encore avec vous demain. Hélène revient lundi, ne vous inquiétez pas. Je remercie Mathieu Tessier à la mise en onde et aux choix musicaux de cette émission. À demain!